bonne idée. Depuis quelques semaines, nous regardons ensemble les tentations du roi David. Afin de nous poser la question, quelles sont les tentations dans notre vie et les péchés que nous devons déraciner afin de nous enraciner en Jésus-Christ. Nous avons vu la tentation de la crainte, la tentation à la rivalité, à la vengeance, à la colère. Et à chaque fois que nous avons vu ces tentations, nous avons aussi vu comment le monde nous dit que ce que notre chair veut entendre. Nous avons vu que le monde nous dit que ces choses sont normaux, normales. Que c'est normal de ne mettre sa confiance qu'en soi-même. Le monde nous dit que c'est normal de voir les autres comme des rivaux. Que c'est normal que notre vengeance et notre colère sont justifiées. Le monde nous rassure, dit, t'inquiète pas, c'est normal. Alors que la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas normal. Elle nous appelle à vivre autrement, à savoir discerner et repousser les mensonges de Satan. Et c'est difficile parce que nous voulons être normal. Nous voulons tous que quelqu'un nous dise, ne t'inquiète pas, tu es quelqu'un de bien. Ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens, c'est que la même chose que n'importe qui d'autre ferait ou penserait à ta place. T'inquiète pas. Alors que le message de la Bible commence par le fait qu'en fait, nous ne sommes pas bien. Ces mauvaises pensées, ces mauvaises attitudes, ces choses que nous prenons parfois pour des petits péchés, elles ne sont pas normales. Et heureusement, heureusement, parce que ça veut dire que nous ne sommes pas destinés pour ça. Nous ne sommes pas destinés à juste tourner en rond, à être toujours harcelés par le mal que nous avons banalisé. Ce n'est pas normal. Et comme nous l'avons chanté, Dieu nous ferait un autre chemin. Mais pour prendre cet autre chemin, il faut reconnaître d'abord que le chemin que nous prenons aujourd'hui, ce n'est pas normal. C'est ça le sens de la repentance, de reconnaître que le chemin que je prends aujourd'hui, ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, nous arrivons à l'histoire de David et Bathsheba. Et c'est justement une histoire où David semble avoir cru que son comportement était normal, même si au fond de lui, il savait que ce n'était pas vrai. Et ce n'est que l'audace du prophète Nathan qui va secouer David de son illusion pour qu'il se repente. Un peu comme Abigaël a fait le dimanche dernier pour David. C'est quelqu'un qui a su dévoiler le mal que David allait faire. Mais cette fois-ci, avec Bathsheba, le mal est déjà fait. David passe à l'acte, et en plus, cet acte entraîne d'autres, comme toujours avec le péché. Alors, avant de lire le passage, rappelons-nous que si le péché de David dans ce chapitre est sexuel, au moins en partie, les leçons de cette histoire ne se limitent pas à la sexualité. Le péché flagrant dans cette histoire, c'est l'adultère. Mais ça ne commence pas là. Et ça ne termine pas là. L'adultère ne commence jamais par l'acte de l'adultère. Il commence par la convoitise. Par le désir pour quelque chose qui n'est pas le sien. Et quand on dit convoitise, on pense souvent à la convoitise sexuelle. Mais il y a plein d'autres façons de convoiter. On peut convoiter l'époux ou l'épouse d'une autre de façon émotionnelle, autant que sexuelle. Mais on peut aussi convoiter beaucoup d'autres choses dans la vie. On peut désirer la richesse. On peut désirer la stabilité. On peut désirer la connaissance. On peut désirer une relation.
des choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais auxquelles nous n'avons peut-être pas le droit pour une raison ou autre. Peut-être tout simplement parce que Dieu ne nous les a pas encore données. Elles ne nous appartiennent donc pas, mais nous les voulons. Et le désir ardent saisit notre esprit. Voilà la convoitise. Le désir ardent pour quelque chose qui ne nous appartient pas. Avant de lire le passage même, je vous pose la question. Qui est votre Bathsheba? Qu'est-ce que tu désires que tu n'as pas? Qu'est-ce que tu désires qui n'est pas à toi? Pas encore. Peut-être. Peut-être que c'est une personne. Peut-être que c'est une chose. Peut-être que c'est une expérience ou un sentiment même. C'est possible que ce désir ne soit pas encore devenu la convoitise. Mais faites attention. Le chemin du désir jusqu'à la convoitise n'est pas toujours très long. Lisons 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 4. On va commencer là et puis on va reprendre la suite. 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 4. L'année suivante, l'année après le chapitre d'avant, après la guerre. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne pour la guerre, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabba. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, « N'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hittite ?» David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors, déjà, dans ces quelques versets, nous avons une étude approfondie de la nature de la tentation et de comment elle peut fonctionner. Verset 1 précise, « C'est la saison où les rois partent en campagne. » Mais David ne part pas. Il envoie les autres. Quant à lui, nous lisons, il resta à Jérusalem. Cette partie de l'histoire, par rapport à Bathsheba, n'est pas très longue. 5 versets. Pourquoi consacrer plusieurs phrases alors à ce fait que David reste à Jérusalem? Parce qu'en fait, ce n'était pas normal. Un roi guerrier comme David aurait très bien pu partir avec son armée. Mais il resta au palais. Un petit détail, peut-être. Mais c'est le début. Il y a quelque chose qui ne va pas chez David. Et puis, pendant qu'il se promène, il voit cette femme. Il n'est pas en train de travailler. Il n'est pas en train de faire quelque chose d'essentiel ou d'utile même. Il s'amuse. Ce qui n'est pas forcément mauvais en soi. Mais quand on se rappelle que ces soldats sont dans le champ de bataille, le contraste est frappant. David qui se promène, alors que ses soldats combattent. Et alors, quelque chose attire son regard. Et il fait plus que regarder. Il y réfléchit. Qui est cette femme? Alors que c'est très probable qu'il connaît bien la, et il sait bien, il connaît bien la réponse. Qui est cette femme? Et puis, il agit. Il pose la question à quelqu'un. Une petite question. Une question innocente, il veut le faire croire. Peut-être même à soi-même. Mais déjà, le péché est entré dans son âme. Et il est sur une pente glissante. Il envoie des messages. Elle vient. Et c'est fait. Fin de l'histoire. Le récit est court. Les étapes passent vite. Et voilà, nous arrivons aux conséquences. La femme est enceinte. Combien de fois avons-nous cédé au péché par étapes, comme ça?
Par des étapes qui semblent chacune innocentes en soi, ou au moins pas très graves, mais qui passent tellement vite qu'on arrive à la fin presque sans savoir qu'on a commencé.
En fait, c'est rare que nous cédions à la tentation tout d'un coup. Même quand on a l'impression que ça arrive vite, il y a en amont toute une série d'étapes. Et à chaque étape, comme David, nous avions eu la possibilité d'arrêter le glissage, mais nous ne l'avons pas fait. Peut-être parce que nous n'avons pas eu le courage. Ou peut-être parce qu'en fait, nous avons bien vu que ça aboutisse. Sans les mauvaises conséquences, bien sûr. Si David ne s'est pas arrêté après avoir vu Bathsheba, ou encore après avoir posé la question, ou encore lorsqu'elle est arrivée chez lui, c'est parce que d'une façon ou autre, c'est ce qu'il voulait. Et il s'est convaincu qu'il y avait, droit, qu'il le méritait. C'est dangereux quand nous commençons à penser que nous méritons certaines choses. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire avec Nabal et Abigail. L'histoire que nous avons vue le dimanche dernier, en fait. Selon les coutumes de la culture, David avait droit à l'hospitalité chez Nabal. Et l'offense de Nabal était bien réelle. Mais lorsque ses droits ont été refusés, David se laisse emporter par la colère. Parce qu'il pense qu'il mérite quelque chose qu'il n'a pas reçu. Et oui, la parole d'Abigaël amène David à se repentir. Mais déjà, dans cette histoire-là, nous voyons que les problèmes chez David commencent. Et lorsqu'on arrive ici à 2 Samuel 11, aujourd'hui, on peut bien voir que ce qui se passe là a ses racines dans l'histoire de Nabal. Devant Abigaël, David s'est repenti de ce qu'il allait faire dans sa colère. Mais il n'a pas enlevé la racine du problème. La racine, c'était le début d'une attitude qui disait qu'en tant que roi, il avait droit à certaines choses. Et que c'était normal qu'il insiste sur ses droits. Et qu'il les prenne par force, si nécessaire. Ce qu'il va faire dans ce chapitre. Et ça, pour quelque chose auquel il n'a aucun droit. Ça avance, ça augmente dans sa vie. Alors, faisons attention. Lorsque Dieu nous montre notre péché, comme il a fait pour David la semaine dernière, pour nous c'est la semaine dernière, pour lui, ça remonte quelques années. Mais quand Dieu nous montre notre péché, faisons attention à chercher et à renoncer, non pas juste au péché lui-même, mais à ses racines dans notre âme. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre de l'effort, mais c'est essentiel, parce que sinon, il va revenir sous une forme ou autre. Et c'est ce qui se passe ici dans ces chapitres. Non pas juste avec Bathsheba, mais dans le reste du chapitre, David agit comme quelqu'un qui pense mériter de faire ce qu'il veut et de prendre ce qui lui plaît. Lisons la suite, verset 6. Alors, David fit dire à Joab, « Envoie-moi Uri le Hittite. » Et Joab envoie Uri à David. Uri se rendit vers David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple, et de la guerre. Puis David dit à Uri, descends chez toi et prends un moment de détente. Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Mais il se coucha à la porte du palais royal avec tous ses serviteurs de son maître et il ne descendit pas chez lui. Vous comprenez, David voulait qu'il rentre chez lui pour qu'il couche avec sa femme. Afin de cacher ce qui s'est passé. Donc David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi? Uri lui répondit, l'arche de l'alliance, ainsi qu'Israël et Juda habitent sous les tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi, je rentrais chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. David dit à Uri, reste ici aujourd'hui encore et demain je te laisserai repartir. Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'énivra. Le soir, Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec ses serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et il lui fit parvenir par l'intermédiaire de Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et meure. » Au cours du siège de la ville, Joab place Uri à un endroit qui s'avait défendu par de vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie et livrèrent combat contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri, le Hittite, fut aussi tué. Autrement dit, David le fait tuer. David fait tuer un homme innocent pour cacher son propre péché. Et non pas juste un homme innocent, mais un ami. Uri était l'un de ce qu'on appelle les hommes vaillants de David. 37 hommes qui étaient comme des soldats personnels à David. C'est très probable qu'Uri était avec David dans le désert, dans la grotte, lorsque Saoul le cherchait, par exemple. Ces hommes avaient combattu ensemble. Ils étaient entrés à Jérusalem ensemble. Ils auraient dû être comme des frères. Et le fait qu'Uri habite près du palais est aussi une indication de sa relation très proche avec David. Et pourtant, David le tue pour se protéger. Vous voyez la nature du péché, le mal qu'il entraîne. C'est grave et choquant que David arrive à ce point-là. Mais encore, le péché arrive par étapes. D'abord, David pense juste tromper son ami, en le faisant croire que c'est lui le père de l'enfant. Solution facile au problème. Mais ça ne marche pas, parce que Uri est trop noble. Dans un contraste frappant avec David, qui n'est pas sorti à la guerre, Uri refuse de coucher chez lui, tandis que ses hommes sont toujours sur le champ de bataille. Du coup, David augmente ses efforts. Il incite Uri à boire, mais même ivre, Uri ne rentre pas chez lui. Et donc, le lendemain, David envoie les instructions pour qu'Uri soit tué. Et ça, dans une lettre qu'il envoie avec Uri lui-même. Uri porte sa propre condamnation à mort dans ses propres mains sans le savoir. Et David, on peut bien l'imaginer, David se permet de croire qu'il reste innocent parce qu'il n'a pas tué Uri lui-même. Mais dans le prochain chapitre, le prophète Nathan va le dire clairement, c'est David qui a tué Uri. Dieu n'est pas du tout intéressé par nos excuses et nos manipulations de la vérité. Que David ait porté l'épée lui-même ou pas, David a tué Uri. Comment un homme comme David peut-il arriver à ce point-là? Dans cette histoire, nous voyons le grand roi d'Israël, le berger courageux qui a vaincu Goliath, l'ami fidèle qui a aimé Jonathan, l'homme noble qui a épargné la vie de son ennemi Saoul. Ce roi berger devient un roi autoritaire et violent comme on trouverait chez les autres nations. David n'est plus l'homme qui protège les brebis comme un berger, il est celui qui les égorge. C'est ce que Nathan va lui dire. Comment est-il arrivé à ce point-là? Ça devrait nous faire peur quelque part. Qu'un homme comme David peut tomber comme ça. Et qui suis-je pour penser que je ne pourrai jamais tomber comme ça si je ne fais pas attention? Nous avons dit que le péché arrive par étapes, souvent à partir de racines qu'on n'a pas enlevées comme il fallait. David tombe à cause de sa convoitise, à cause de son désir de ce qui n'est pas le sien et de la conviction qu'il le mérite. Mais d'où vient cette conviction? Pourquoi pense-t-il qu'il a droit à Bathsheba? Alors, regardons. Depuis les chapitres que nous avons vus le dimanche dernier, il y a beaucoup de chapitres entre l'histoire de Nabal et l'histoire avec Bathsheba. Et depuis l'histoire avec Nabal, David a fait beaucoup de choses. Il a eu beaucoup de combats et beaucoup de victoires. Il est devenu roi, il a vaincu les Philistins, il a ramené l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Dans le dernier chapitre même, il a tué beaucoup d'ennemis. Il est un vrai héros aux yeux du peuple. Et donc, David pense mériter un peu de bonheur, un peu de plaisir. Nous le savons. Nous le savons grâce à la façon dont le texte le décrit au début du chapitre. Il fait exprès de souligner le fait que David se repose lorsque ses soldats sont dans le champ de bataille. Nous le voyons en train de soulever de son lit pour se promener. Il donne des ordres aux autres sans rien faire lui-même. Ici, c'est quelqu'un qui se dit, d'un côté, la vie n'a pas été très facile jusqu'ici, et de l'autre côté, qu'il a été lui-même très héroïque face à tous ses défis. Et il n'a pas complètement tort. La vie de David a été quand même difficile. Et David a surmonté. Mais pour lui, il paraît que ça veut dire maintenant qu'il mérite un peu de plaisir. Et à ce moment-là, dès qu'il commence à se voir comme ça, comme quelqu'un qui mérite tout ce qu'il a reçu, c'est comme s'il se tient devant Satan avec une cible sur sa propre ligne. Je mérite un peu de plaisir, il se dit, un peu de bonheur innocent, entre guillemets. Et voilà la flèche entre. Et David prend un coup comme il n'a jamais pris sur le champ de bataille. Pour une fois, David n'est pas en danger physique. Mais ici, c'est la première grande victoire de Satan dans sa vie. Parce qu'au lieu d'être focalisé sur sa mission, et donc focalisé sur Dieu, David est focalisé sur lui-même. Sur le champ de bataille, David n'avait pas de choix. Il devait s'appuyer sur Dieu. Mais ici, au palais, en ne pensant qu'à ses propres désirs, il baisse sa garde et il s'ouvre à l'attaque. Il prend un coup comme il n'a jamais pris avant. Je sais que certains d'entre nous sont fatigués par le combat dans notre vie en ce moment. Et c'est normal, notre combat peut être fatigant. Je sais que certains ne veulent rien sauf que le combat s'arrête. Enfin, Dieu le sait. Et il vous a promis la victoire et le repos que vous cherchez. Mais n'oublions pas, non plus, que très souvent, c'est pas sur la montagne que nous courons Dieu. C'est dans la vallée. C'est pas dans le palais. C'est sur le champ de bataille. Si vous trouvez dans un combat en ce moment, n'ayez pas trop hâte que ça se termine. Car maintenant, c'est l'occasion de vous appuyer sur Dieu. Et sur Dieu seul. Oui, le palais est attirant. Mais c'est là où David a pris le coup. Maintenant, c'est l'occasion de vous appuyer sur Dieu. Si tu combats avec Dieu, Dieu combat pour toi. Et si Dieu combat pour toi, tu es beaucoup plus en sécurité sur le champ de bataille que dans un palais éloigné de lui. La flèche enflammée de Satan perce David là où il pense être en sécurité. Parce que là, il commence à réfléchir sur ce qu'il mérite, ce que Dieu lui doit. Alors que Dieu ne nous doit rien. Tout ce qu'il nous donne, il nous donne par amour, par grâce. Posons-nous donc la question. Dans quel domaine de ma vie suis-je tenté de croire que Dieu m'a été injuste? Que je mérite quelque chose que je n'ai pas reçu? Parce que c'est là où beaucoup de nos tentations commencent. Je commence à faire de mes désirs un droit, un besoin. Et si Dieu ne me le donne pas, je vais me récompenser d'une manière ou autre, n'est-ce pas? Parce qu'après tout, j'ai fait tant de choses pour lui. J'ai fait tant de choses pour ma famille, pour les autres. Sûrement, je mérite quelque chose. J'ai le droit de boire un peu trop pour me détendre. J'ai le droit à ma mauvaise attitude. J'ai le droit de dire ce que je pense, même si c'est un peu sévère. J'ai le droit à mes petits secrets, à mes pensées malsaines, et ainsi de suite. J'ai le droit, parce que je me dois quelque chose. Comme nous avons vu, en général, ça ne nous arrive pas d'un coup, mais par étapes. J'ai un certain désir, un certain souhait, qui est peut-être légitime, et je commence avec une attitude plutôt cool. Je me dis, ah, ouais, il y a bien ceci, là. Ouais. Et ça peut être quelque chose de bien, une bénédiction de Dieu même. Et tout au début, je prends peut-être le soin de rajouter Dieu voulant, au moins dans ma tête. Parce que je sais que je devrais soumettre mes désirs à la volonté de Dieu. Mais petit à petit, je laisse tomber le Dieu voulant. Parce que je suis convaincu qu'effectivement, Dieu le veut. Ou qu'il va le permettre, exactement comme je le veux. Et puis, je commence à me focaliser sur l'objet de mon désir. Surtout si ça tarde. Ah, oui, j'aimerais ça. Vraiment, j'aimerais ça. Et du coup, très vite, j'aimerais devient je veux. Et je veux devient j'ai besoin de. J'ai besoin de ceci ou cela. Plus d'argent, plus de respect, plus de contentement. Un autre travail. Que ma femme arrête ceci. Que mes enfants fassent cela. Dès que je laisse tomber le Dieu voulant, le chemin de le j'aime, je l'aimerai jusqu'à j'en ai besoin peut être très très court. J'arrive très rapidement à penser que j'en ai besoin. Et si j'en ai besoin, j'ai le droit, n'est-ce pas? Je le mérite, je me dis. Je le mérite parce que j'en ai besoin. Alors, nous allons lire la réponse du prophète Nathan à ce genre d'attitude. Et là, juste une petite parenthèse. Là, on est au chapitre 12, verset 12. Juste une petite parenthèse. Le rôle du prophète dans la Bible ne se limite pas à connaître l'avenir. En fait, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'il fait. Parce que le rôle principal du prophète est de recevoir et d'annoncer la vérité que Dieu veut que le peuple entende. Que ce soit par rapport à l'avenir ou le présent. Et donc, Nathan est bien dans son rôle ici, car il prononce la parole à David. Verset 1, chapitre 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des veaux en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez un riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis, à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » En outre, il remplacera la brebis par quatre autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël, et je t'ai délivré de Saoul. Je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ses femmes contre ta poitrine, et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? » C'est frappant la pitié que David ressent et qu'il exprime pour l'homme pauvre dans ce récit. À la base, David est quelqu'un de sensible. Ça se voit dans les psaumes. À la base, David est quelqu'un plein de compassion. Ça se voit dans sa réaction à cette parabole de Nathan. Il ne veut pas faire mal aux gens. Il veut être quelqu'un de bien. Mais la sensibilité et la compassion et le vouloir ne valent pas grand-chose s'il se laisse tromper par ses propres désirs. Et c'est ce qui s'est passé. Il était aveuglé par ce désir qu'il a eu de se récompenser pour tout ce qu'il avait fait pour Dieu. Et Dieu met le doigt sur ce problème au verset 7 et 8, n'est-ce pas? Il nomme toutes les choses impressionnantes qui se sont déjà passées dans la vie de David. Le fait de devenir roi et de vaincre ses ennemis, d'avoir créé une dynastie et unifié le peuple. Mais il le dit clairement, c'est lui l'Éternel qui les a accomplis. Je t'ai roi, je t'ai délivré, je t'ai donné ceci et cela, je t'ai donné toutes ces choses et j'aurais été prêt à te donner encore plus. Mais c'est moi qui l'ai fait. David, on n'avait pas vu comme ça, apparemment. Au moins, il avait oublié. Là, dans son palais, il se prend pour un roi qui mérite ses victoires. Et qui mérite donc encore plus. Il a oublié que tout ce qu'il a reçu vient de lui. Et tout ce qu'il va recevoir viendra de lui. Et ce n'est donc pas à lui d'étendre sa main pour prendre ce qui ne lui appartient pas. Et voilà donc la vraie racine de la convoitise, et dans un sens de tout péché. Je ne pense pas avoir reçu ce que je mérite, et donc je vais le prendre, que Dieu le veuille ou pas. Parfois, c'est parce que nous pensons avoir été héroïques. Parfois, c'est juste parce que nous pensons avoir tellement souffert. Nous pouvons nous dire que notre vie a été tellement difficile que sûrement nous avons droit à ceci ou cela. Et inconsciemment, nous utilisons notre souffrance comme une excuse pour notre désobéissance. Vous voyez pourquoi j'ai dit que c'est une parole difficile aujourd'hui. Parce que personne, moi le premier, personne veut dire à quelqu'un qui souffre qu'elle utilise sa souffrance pour une excuse, pour pécher. Mais ça peut arriver. Et inversement, dès que je reconnais tout ce que Dieu a fait pour moi, malgré mes souffrances et mes difficultés, et au fur et à mesure que je saisis la profondeur et la largeur de ce qu'il a fait pour moi, je me trouve capable de résister à la convoitise. Je me trouve capable de résister à ses désirs pour ce qu'il ne m'a pas donné, parce que ce qu'il m'a donné suffit. Je ne vais pas recontacter mon ex qui était une mauvaise influence sur moi, parce que la grâce de Dieu dans ma vie maintenant me suffit. je vais pas cacher un peu d'argent de mon épouse pour moi-même, parce que ce que Dieu m'a donné suffit, même si ce n'est pas autant que j'aurais dû. Je vais pas chercher l'affection ou la sexualité en dehors de mon couple, parce que par la grâce de Dieu, ce que j'ai peut me suffire, même si ce n'est pas pour le moment comme je l'aurais dû. Le premier pas, donc, pour déraciner la convoitise de notre vie, c'est de reconnaître la suffisance de ce que Dieu nous a donné, de reconnaître sa grâce. La deuxième, c'est de reconnaître que justement la définition de la grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Je ne vais jamais saisir la profondeur de la grâce dans ma vie si je persiste dans l'illusion qu'en fait je suis quelqu'un d'assez bien et qu'en fait je mérite un peu de plaisir quand même grâce à ça. La seule solution, c'est de faire face à la vérité. En moi-même, je ne mérite rien sauf la mort. C'est une parole dure. C'est la Bible qui le dit. En moi-même, je ne mérite rien sauf la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est l'Épître aux Romains. Mes œuvres sont insuffisantes. Mes motivations sont polluées et égoïstes. Et Dieu ne me doit rien. Je ne sais pas si vous pouvez dire ça. Pas facile. Dieu ne me doit rien. Et pourtant, il m'aime. Dieu ne me doit rien et pourtant il m'aime. Et pourtant il m'appelle. Et pourtant il me sauve. Et pourtant il me purifie. Et il me bénit. Et il me promet une vie éternelle. Si je tombe à ses pieds, Dieu me dit, comme il a dit à David, je te pardonne. En fait, je t'ai déjà pardonné parce que, pourquoi? Je t'ai déjà pardonné parce que tu es mort pour mon enfant. Tu as mis ta parole et tu es mon enfant. Je t'ai déjà pardonné. Et en réponse à ce pardon, et on va terminer avec ce verset. En réponse à ce pardon, voici ce que dit Philippiens 2:12. Philippiens 2:12. C'est bien de trouver. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver quand il est beau. Philippiens 2:12. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et c'est ça le dernier pas. Le dernier pas, c'est de laisser Dieu remplacer nos désirs par les siens. Vous voyez, qui produit le vouloir en nous? C'est Dieu qui produit le vouloir pour son projet en nous. C'est Dieu qui produit ce désir. C'est lui qui peut remplacer la convoitise avec un désir pur. Un désir pur pour sa volonté. Mais pour ça, pour recevoir ce vouloir, pour recevoir ce désir, il faut lâcher les propres désirs. Il faut déposer nos propres désirs au pied de la croix. Et dès que nos mains sont vides, Dieu peut y placer un nouveau désir. Un désir pour lui et pour sa volonté. Mais il faut que nos mains soient vides pour le recevoir. Nous allons chanter maintenant pour offrir à Dieu tout ce que nous sommes. Y compris nos désirs. Qu'il les remplace par les siens. Et je vous encourage de chanter ce chant comme une prière.
nous donnons tout à Dieu pour qu'il nous donne ses désirs, quoi, dans ce cas, qui remplace notre convoitise avec un désir ardent pour sa volonté. Levons-nous aujourd'hui.